semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver comme chaque samedi pour notre résumé de 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction. Nous nous retrouvons à la même heure en Afrique mais à 10h10 désormais à Paris. Une semaine d'actualité, une émission que vous pouvez retrouver et podcaster sur notre site www.rfi.fr. Bien sûr, nous partirons au Brésil après l'élection présidentielle et la victoire de Jair Bolsonaro et aux États-Unis également, en Allemagne aussi, ainsi que en Tunisie. Nous sommes en compagnie de Yann Mince du magazine Alternative Économique. Bonjour Yann.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver pour ce ravi nouveau également. Voyage dans l'actualité de la semaine avec une actualité toujours aussi lourde.
Oui, lourde et inquiétante pour notamment en ce qui concerne le Brésil, parce qu'effectivement, personnellement, j'aurais pas dit il y a 6 mois que Bolsonaro avait une chance de l'emporter. Là, il faut bien reconnaître qu'un nouveau fier à bras sur la scène internationale est apparu.
Il commence à y en avoir quelques-uns.
On a une collection, hélas.
On va en reparler dans un instant, mais nous allons, Yann, commencer ce numéro d'une semaine d'actualité en ayant une grande pensée pour nos amis Ghislaine Dupont et Claude Verlon, enlevés et tués au nord Mali il y a 5 ans déjà, presque jour pour jour, le 2 novembre 2013. Et les 2 enquêtes judiciaires ouvertes en France et au Mali ne sont toujours pas terminées. Marie-Pierre Rolfin.
Le dernier témoin a été entendu à Paris il y a tout juste 1 mois. Signe que l'enquête se poursuit bien. Mais l'instruction progresse lentement. Ça en est même déroutant, confie un des avocats qui salue cependant, comme tous ses confrères, le déplacement du juge Herbeau à Bamako début février. Le magistrat français y a rencontré pour la première fois son homologue malien, avec lequel il dit avoir travaillé jour et nuit pendant tout son séjour. Ce déplacement a notamment permis au juge antiterroriste d'obtenir une partie des fadettes qu'il réclamait, mais ses relevés des téléphones trouvés sur les lieux du drame n'ont rien apporté de significatif. Même déception du côté de l'analyse de l'ordinateur de Ghislaine Dupont. Elle ne confirme pas l'intrusion informatique suspecte révélée par un reportage diffusé sur France 2 il y a 1 an et demi. Et surtout, elle ne permet pas d'avancer sur le mobile de l'enlèvement de nos confrères. 5 ans après, les incohérences et les questions essentielles demeurent, notamment sur un lien éventuel avec la libération des otages d'Arlit intervenu 4 jours plus tôt. Ce que l'on sait à ce stade ne tient pas la route, résume un avocat, toujours déterminé comme les familles à faire la lumière sur ce dossier.
Maigre consolation, mais symbole d'espoir quand même. Il existe désormais une bourse qui porte le nom de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, bourse dédiée aux jeunes journalistes et techniciens africains. Écoutez ce que disait hier Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde, la société qui, vous le savez, coiffe RFI et France 24.
Ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait, avec cette douleur, faire quelque chose, ou être résilient. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer une bourse qui porte leur nom, Ghislaine Dupont, Claude Verlon. Et aujourd'hui même, elle est remise pour la 5e année à Abidjan. Quand on voit ces jeunes, quand on voit la fierté qu'ils ont à porter le nom qu'ils portent, mais ils savent bien que c'est la bourse Ghislaine Dupont, Claude Verlon. C'est pas des mots qui auraient pas de sens pour eux. Quand on assiste à cette cérémonie, quand on voit ces jeunes, on se dit qu'on a rendu notre douleur féconde et c'est peut-être ça le plus important, c'est de laisser le soleil rentrer dans les ténèbres un peu. Et c'est ça que je ressens. Il y a toujours des ténèbres, mais on a remis du soleil dedans.
Et les lauréats de la 5e bourse ont été choisis hier, c'était en Côte d'Ivoire, hier vendredi, pour les reportages pour la journaliste, il s'agit de Tabi Badjo Marina Java, et pour le technicien Aman Baptiste Ado. Ils viendront tous deux à Paris pour une formation de 4 semaines au début de l'année prochaine, donc l'année 2019. Il nous faut avoir une pensée pour Ghislaine et Claude.
Bien sûr, il faut avoir une pensée pour tous les confrères qui prennent des risques et qui vont sur des terrains de conflit, sur des terrains de crise. Pour l'avoir fait quelquefois, on sait quand on part que c'est dangereux, on espère revenir. Ce qui est inquiétant, je dirais, pour reprendre l'expression de Marie-Christine Saragosse sur les ténèbres, c'est que les ténèbres se rapprochent de pays où il n'y a pas de conflit. On a effectivement un certain nombre de confrères qui ont été assassinés en Europe cette année dans des pays, Slovaquie ou Malte, où on ne pensait pas que ça se produirait.
Et le 2 novembre est désormais la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. Il faut savoir que depuis 12 ans, plus de 1000 journalistes ont été tués, 1000, et dans 9 cas sur 10, les meurtres sont restés impunis.
Oui, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de régimes qui ne sont pas très enclins à poursuivre les éventuels auteurs, surtout si ce sont eux-mêmes les régimes qui sont responsables de ces morts. Je pense à un certain nombre de journalistes qui sont morts en Russie dans des conditions plus que suspectes. Effectivement, je suis pas surpris que les enquêtes ou ne progressent pas ou aboutissent à des conclusions un peu étranges.
Une semaine d'actualité.
Alors avant de nous rendre au Brésil, Yann Mince, notamment partons pour la Norvège. Pour le moment, l'OTAN y a mené ces derniers jours ses plus vastes manœuvres militaires depuis la fin de la guerre froide. Quelques 50 000 soldats de 31 pays différents ont pris part à l'exercice qui vise à entraîner l'Alliance Atlantique à porter secours à un de ses membres en cas d'agression de Moscou, comprenez. Reportage de Pierre Bénès.
Dans le vacarme assourdissant des tirs d'artillerie de marine, du balai des hélicoptères et des chasseurs-bombardiers, des chalands de débarquement se détachent du Dixmude et du navire néerlandais Johan de Witt dans le sud du fjord de Trondheim. Après l'explosion de mines anti-sous-marines, les fantassins français, britanniques, allemands et néerlandais prennent pied sur la plage de Beinset. La démonstration des armées alliées dure à peine une heure et demie, un condensé de ce que les forces de l'OTAN peuvent réaliser en termes de combat amphibie. Même si ce n'est pas le but avoué, la manœuvre montre la capacité de l'OTAN à projeter ses forces en nombre près de la Russie. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Alliance Atlantique.
Nous voyons une présence accrue de la Russie dans l'Arctique. La raison pour laquelle nous renforçons notre défense collective et renforçons aussi notre présence dans le Grand Nord, c'est à cause de ce que nous voyons du côté russe et parce que nous avons besoin de protéger les lignes de communication maritime en Atlantique Nord. Relier l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est vital pour l'OTAN.
Les grandes manœuvres de l'OTAN durent jusqu'au 7 novembre et les alliés ont bien l'intention de démontrer au maximum leur capacité d'action dans le Grand Nord.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes évidemment toujours en compagnie de Yann Mince, du magazine Alternative Économique. Alors tout cela nous ramène, Yann, à l'avant 1989, une période que les moins de 30 ans ne peuvent pas comprendre.
Oui, on a peut-être du mal à réaliser à quel point, effectivement, nous avions l'impression qu'il y avait une menace qui pesait de l'autre côté de l'Europe. Alors, elle existe encore, la menace, mais elle avait une espèce de réalité un peu sombre, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup d'armes, on savait qu'il y avait un régime extrêmement autoritaire, qu'il n'y avait pas un seul pays, puisqu'il y avait tout le bloc de l'Est, qu'il y avait le pacte de Varsovie, une expression qu'on a complètement oubliée aujourd'hui. Ce qui est frappant dans ce qui se passe aujourd'hui, dans ce qui a changé aujourd'hui, c'est que la menace que peut faire peser Moscou n'est pas une menace probablement très claire. On parle de menaces hybrides, dans la mesure où, par exemple, si effectivement on avait tout d'un coup des mouvements sécessionnistes pro-russes dans un pays balte, qui étaient activés en sous-main par la Russie, ce qui n'est pas complètement impossible, oui, puisqu'il y a des minorités russophones importantes, ce serait difficile de prouver que c'est effectivement Moscou qui est derrière ça. On l'a bien vu en Ukraine, dans le Donbass, ou à l'est de l'Ukraine, où la Russie nie toute présence militaire, alors qu'on sait qu'elle soutient le mouvement. Donc effectivement, pour l'OTAN, quand il y a une offensive militaire claire, avec des chars, des avions, toutes ces choses qu'on a entendues dans le reportage, on peut dire qu'il y a une guerre, qu'il y a une agression, qu'on peut déclencher l'article 5 de la charte de l'OTAN, qui veut dire qu'il faut que tous les membres se prêtent assistance à celui qui est agressé. En revanche, si ce sont des mouvements sécessionnistes un peu diffus, c'est beaucoup plus compliqué de dire il faut déclencher l'article 5 et la défense entre membres de l'OTAN.
Et d'ailleurs, il me semble que Vladimir Poutine a dit qu'il profiterait de cette période pour tester de nouveaux missiles dans cette zone.
Vladimir Poutine a fait lui-même d'énormes manœuvres il y a encore quelques semaines, plutôt du côté de la frontière chinoise, mais il a sorti lui aussi tout son arsenal, comme l'a fait l'OTAN, pour montrer qu'il avait beaucoup de canons, beaucoup de missiles et beaucoup d'engins de mort, effectivement.
Alors partons maintenant pour le Brésil. Yann, après la victoire de Jair Bolsonaro à l'élection présidentielle, victoire attendue, à Rio dimanche soir, François Cardona.
Après sa victoire, Jair Bolsonaro s'est dit guidé par Dieu. Il a promis de respecter autant la Bible que la constitution brésilienne. Puis un pasteur l'a béni et a remercié Dieu pour avoir permis que Jair Bolsonaro devienne président. Autant de gestes forts à l'intention de son électorat évangélique, dont l'influence a été décisive dans son arrivée au pouvoir. Jair Bolsonaro a réussi la prouesse de s'être imposé avec son seul parti, une victoire sans alliance avec d'autres grandes formations politiques. Jair Bolsonaro a promis de changer le destin du Brésil. L'économie est l'une de ses priorités. Il veut réduire la bureaucratie de manière drastique, réduire le rôle de l'État fédéral et limiter les dépenses publiques. Son score sans appel lui donne les coups des franches pour appliquer son programme, d'autant plus que lors du premier tour de la présidentielle, les Brésiliens ont aussi élu leur député, le groupe parlementaire du parti de Jair Bolsonaro. Il sera l'un des plus importants. C'est une vague conservatrice sans précédent qui vient d'emporter le Brésil. Pourtant, le pays reste profondément divisé. Le président élu suscite toujours un très fort sentiment de rejet chez une partie très importante de la population.
Alors vous y faisiez référence tout à l'heure, Yann, il y a quelques semaines, vous ne pensiez pas qu'un tel homme deviendrait président
du Brésil. Non, il y a encore, je dirais, quoi, 6 mois, peut-être même 3 mois, effectivement, j'aurais pas pensé que les Brésiliens éliraient. Alors c'est vrai qu'il y a encore quelques mois, on pensait que peut-être Lula pourrait se présenter, qu'il ne serait pas assigné de façon permanente à la prison. Donc ça aurait changé, je pense. Probablement Haddad, le remplaçant de Lula, un peu au pied levé, n'avait pas l'envergure et la popularité et l'assise populaire pour le Parti des Travailleurs. Mais bon, Bolsonaro est élu maintenant. Et je veux dire qu'il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites avec Trump qui ne me paraissent pas très, très justes. Je pense qu'il faut plutôt le comparer à Duterte, le président philippin, qui lui aussi a commencé en arrivant en disant on va armer les gens qui ont besoin de se défendre contre tous les malfrats, etc. On va permettre aux policiers d'exécuter les gens sans trop de sommation. Je pense qu'on est plutôt en cet ordre-là. La différence, et le correspondant de RFI y faisait allusion dans le reportage, c'est François Cardona. Il y a une grande différence, c'est qu'entre les États-Unis à côté, les Philippines aussi, et le Brésil, c'est qu'au Brésil, le système parlementaire, le système de parti est extrêmement éclaté. Effectivement, le parti de Bolsonaro est l'un des plus importants au Parlement, mais il n'a qu'une cinquantaine de députés, alors qu'il y a 500 députés au Parlement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de partis au Parlement, ce qui veut dire que Bolsonaro, comme Lula dans le passé, parce que c'était pareil dans Lula, ou de Dilma Rousseff, va être obligé de faire une alliance avec une multitude de petits partis qui demandent tous quelque chose et dont les patrons demandent en général de l'argent. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans un maintien du système clientéliste parlementaire brésilien et ce sera compliqué pour Bolsonaro de boucler sa majorité, sauf évidemment à distribuer de l'argent à droite et à gauche, qu'il fera peut-être.
Il faut souligner deux de ses premières décisions. Il a convaincu le très populaire juge anticorruption Sergio Moro d'accepter le poste de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Les deux termes sont assez curieux.
Hein? Oui, c'est inquiétant, enfin c'est dommage, je dirais, de la part du juge Moreau, parce qu'il avait une image d'intégrité, etc. Il était soupçonné par une partie des partisans de Lula d'avoir poursuivi Lula parce que c'était Lula, que c'était un parti de gauche. Là, en s'alliant à Bolsonaro, il donne du crédit à cette accusation et je trouve que c'est dommage.
Ouais. Et la décision, c'est la deuxième décision prise, en tout cas c'est annoncé, ce n'est pas encore pris, le projet de transférer l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem, suivant en cela les États-Unis.
Ah, suivant du coup à cela partie tout à fait la diplomatie américaine. Si j'étais Netanyahou, qui s'est pourtant déclaré ravi, je ne serais pas absolument content d'avoir ce genre d'individu qui est quand même d'extrême droite, il faut le souligner. On peut penser que peut-être il y a de l'antisémitisme dans son discours, qui soutienne Israël, en tout cas la politique du Premier ministre israélien. Je trouve que c'est un très très mauvais signal. Il y a une autre décision sur laquelle il semble qu'il est revenu. Il voulait fusionner le ministère de l'Agriculture et celui de l'Environnement, ce qui était extrêmement révélateur, parce que je vois à peu près qui aurait triomphé dans cette histoire, peut-être plutôt les grands propriétaires terriens. Et ça n'a pas été le cas, visiblement il a dit qu'il allait revenir là-dessus. C'est intéressant.
Sept jours dans le monde.
Direction la Turquie maintenant. Yann, mercredi, le parquet a livré ses conclusions sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Elles sont accablantes. Oriane Verdier.
Conformément à un plan prémédité, Jamal Khashoggi a été étranglé dès son arrivée dans le consulat, affirme noir sur blanc le communiqué du parquet turc, ajoutant « le corps de la victime a été démembré sans pour autant être en mesure de dire où est ensuite passé le corps de l'opposant saoudien ». Cette question a été posée au procureur saoudien en visite à Istanbul, mais elle est restée sans réponse. Hier, un éditorialiste proche du pouvoir turc accusait la justice saoudienne de travailler uniquement pour, je cite, sauver le prince héritier saoudien en manipulant cette enquête au lieu de faire la lumière sur ce meurtre. Comme pour appuyer cette affirmation, le porte-parole du parti turc au pouvoir, l'AKP, a renchéri hier soir, affirmant que le meurtre n'aurait pas pu être mené sans instruction de haut niveau de Riyad. En réponse à ces accusations, le procureur saoudien a invité son homologue turc à venir lui-même interroger les 18 suspects arrêtés à Riyad. Parmi eux figurent des membres de services de sécurité directement rattaché au prince Ben Salman.
Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a appelé mercredi au respect d'un verdict de la Cour suprême qui a vu l'acquittement d'Asia Bibi, une chrétienne condamnée à mort pour blasphème, et a provoqué la fureur des islamistes. Qui est cette jeune fille? Qu'a-t-elle fait il y a 8 ans? La réponse de Vincent Souriau.
Son métier, c'est de récolter des baies dans les champs. Asia Bibi cueille les fruits à la main près de son village. C'est un travail pénible, le soleil tape fort. Elle fait une pause pour avaler quelques gorgées d'eau. Elle ne le sait pas encore, mais ce geste anodin va se transformer en tempête politique et religieuse. Que s'est-il vraiment passé? On ne le saura jamais, mais une dispute éclate entre elle, Asia Bibi, la chrétienne, et les autres paysannes présentes ce jour-là qui sont musulmanes. Comment oses-tu souiller l'eau du puits? On ne peut pas boire à la même source que toi. Voilà l'objet du délit, le blasphème. Asia Bibi est arrêtée, emprisonnée, accusée d'insulte envers le prophète Mahomet. Elle s'en est toujours défendue, mais un an plus tard, en première instance, elle est condamnée à mort. C'est le début d'une longue bataille judiciaire et d'une saga qui va secouer le Pakistan parce que dans ce pays conservateur, prendre la défense d'Asia Bibi, c'est risquer sa vie. En 2011, le puissant gouverneur de la région du Pendjab est assassiné par son propre garde du corps pour avoir dénoncé la loi anti-blasphème et demander la clémence pour Asia Bibi.
Un commentaire, Yann, sur cette décision et sur les manifestations qu'elle a provoquées?
Ce qui est terrifiant, c'est qu'un incident banal, quelqu'un qui boit au présumé bon endroit, parce que cette femme pouvait boire de l'eau où elle voulait, à mon avis, mais voilà, quelqu'un, une dispute de village un peu sotte, tourne dans une affaire d'État, et heureusement, la Cour suprême pakistanaise, il faut s'en réjouir, parce qu'on critique souvent le régime pakistanais, l'État pakistanais, mais là, la Cour suprême pakistanaise a visiblement été assez indépendante pour aller à l'encontre de l'opinion publique. La question qui m'intrigue, c'est est-ce que Imran Khan, donc le nouveau Premier ministre, qu'il a été élu il n'y a pas très longtemps à l'issue législative, est-ce qu'il est en train d'abandonner les islamistes simplement parce que c'était pour lui des alliés de circonstance, ou est-ce que, comme l'évoquait sur l'antenne de RFI d'ailleurs Gilles Boquerin, un chercheur spécialiste du Pakistan, est-ce que c'est parce qu'il veut séduire notamment les États-Unis, l'opinion américaine, parce qu'il a besoin de l'appui des États-Unis au FMI, parce que l'économie pakistanaise se porte pas très bien? Bon, je sais pas si c'est de la conviction ou du calcul ou quoi, mais en tout cas, effectivement, il a du souci à se faire parce qu'une partie de l'opinion pakistanaise est chauffée par des partis, des mouvements islamistes radicaux, et que dès qu'on invoque la religion, ça les attitudes deviennent très absolues.
Alors partons pour la Turquie avec cette incroyable histoire du meurtre, de l'assassinat de Jamal Khashoggi. On en parlait la semaine dernière avec Annick Cojan. La Turquie, Monsieur Erdogan devient le chantre de la liberté de la presse.
Oui, c'est un peu ironique que ce soit le président turc qui aujourd'hui soit le grand révélateur des affaires. C'est du calcul politique, très bien. En attendant, on a quand même une vraie affaire qui porte sur l'assassinat d'un journaliste syrien, et quel que soit l'opportunisme de Erdogan, cet homme a bien été assassiné dans le consulat de son pays, dans une opération qui semble largement préméditée, puisqu'il y avait plusieurs agents qui sont venus d'Arabie Saoudite exprès pour cette affaire. Ce qui m'étonne ou ce qui me surprend, c'est que ça a des retentissements sur la politique extérieure des États-Unis, puisque les États-Unis ont dit cette semaine qu'ils voulaient absolument que la guerre au Yémen soit réglée rapidement. Oui. Et or, jusque-là, on a assassiné des tas de... L'Arabie Saoudite a assassiné par avion interposé des tas de civils yéménites sans que ça fasse du tout frémir l'administration américaine, ni d'ailleurs le gouvernement français qui vient de se rendre compte qu'effectivement, peut-être qu'il faudrait que la guerre au Yémen s'arrête. Madame Parly, notre ministre de la Défense, vient tout juste de s'en apercevoir.
Alors, il y a beaucoup de questions de nos auditeurs sur cette affaire, sur cet assassinat, sur meurtre. Par exemple, Fadiga Conakry, il aimerait savoir s'il n'y avait pas moyen pour l'État turc d'éviter cet assassinat, connaissant les prises de position du journaliste.
C'est-à-dire que le journaliste s'est rendu de son plein gré au consulat d'Arabie Saoudite pour il voulait se remarier, il avait besoin d'un certificat qui atteste de son divorce précédent. Il voulait épouser une citoyenne turque, il est allé au consulat d'Istanbul. Enfin, quelqu'un qui va remplir des papiers aussi ordinaires que cela devrait pas craindre pour sa vie. Là où il y a une interrogation, c'est que les Turcs ont l'air extrêmement bien renseignés sur ce qui s'est passé dans le consulat.
Oui.
Or, l'administration turque n'est pas censée espionner des locaux diplomatiques. Donc là, il y a quand même une interrogation. Comment sont-ils aussi bien renseignés sur ce qui se passe avec des enregistrements, etc., etc.
Alors, parmi ces nombreuses questions, il y a celle de Laye Touré, qui, lui, nous écoute à Dakar, au Sénégal, qui regrette qu'il y ait deux poids, deux mesures, en quelque sorte. Beaucoup de sévérité à l'égard de l'Iran et beaucoup de complaisance, dit-il, à l'égard de l'Arabie Saoudite.
Ah, ça, c'est une vieille affaire. L'Arabie Saoudite, c'est le pompiste d'une partie du monde occidental. occidentale et notamment, alors de moins en moins des États-Unis, parce que grâce au pétrole de schiste, les États-Unis peuvent de plus en plus se passer de pétrole saoudien, pas complètement, parce qu'il y a certaines variétés de pétrole qu'on ne trouve qu'en Arabie Saoudite, dont les États-Unis ont besoin, mais globalement aujourd'hui, les États-Unis sont plutôt en train de devenir un rival sur le marché pétrolier potentiellement de l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite, c'est un marchand de pétrole et surtout, c'est un grand acquéreur de
d'armes
américaines, mais aussi françaises, britanniques, allemandes, etc., etc. On a bien vu que une des premières choses qu'a dit Trump, c'est si je prends des sanctions, surtout, ce ne sera pas sur les marchés d'armement. On touche pas à ces affaires-là. Et le président Macron a réagi avec beaucoup d'agressivité en disant qu'il fallait pas être démagogue, etc. Et que l'Arabie Saoudite n'était pas un client, c'était un partenaire. Évidemment, ça change beaucoup les choses. Mais quand on regarde le rapport annuel au Parlement français sur les exportations d'armement de la France, on voit bien que parmi les principaux clients de la France de façon récurrente depuis des années et des années, il y a à peu près toujours en numéro 2 ou 3 l'Arabie Saoudite. Donc effectivement, ne soyons pas hypocrites.
Partons pour les États-Unis, Yann Mince, maintenant à Pittsburgh, précisément après l'attentat antisémite qui a fait 11 morts dans une synagogue, des victimes fauchées par un homme ouvertement raciste et antisémite. Quelques heures après cette attaque, la ville a rendu hommage aux disparus. Reportage d'Anne Corpé.
Oh, say can you see?
Tous sont debout, la main sur le cœur, pour chanter l'hymne américain. Dehors, sous la pluie, et à l'intérieur, dans une immense salle, des milliers de personnes sont venues rendre hommage aux 11 victimes de l'attaque de la synagogue de Pittsburgh. Le ministre israélien de l'Éducation et de la Diaspora a fait le déplacement depuis Jérusalem, Naftali Bennett.
Today we stand in the shadow of death.
Aujourd'hui, nous nous tenons dans l'ombre de la mort. Dans l'ombre du diable, dans l'ombre d'une attaque lâche, terroriste contre des juifs qui étaient à la synagogue pour prier. C'est l'attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis.
Des représentants de toutes les religions s'expriment tour à tour pour dénoncer la haine et plaider pour l'unité. Combatif, le maire de Pittsburgh lance « Nous bouterons l'antisémitisme hors de cette ville » et il évoque le débat sur les armes à feu.
Nous éradiquerons toute manifestation de haine dans cette ville et nous travaillerons en faveur de lois de bon sens pour stopper ce type de violence et nous ne le ferons pas seulement parce que nous sommes Pittsburgh, mais parce que nous sommes unis.
Dans la foule dehors, quelques pancartes surgissent au-dessus des parapluies sur lesquels on peut lire « Le 6 novembre, voter contre la haine.
Suite d'une semaine d'actualité, Yann Mince en Allemagne, cette fois après une nouvelle défaite d'un des partis de sa coalition dans une élection locale en Hesse. Angela Merkel a annoncé qu'elle quitterait le pouvoir progressivement ces 3 prochaines années. Écoutons-la.
J'ai toujours eu l'ambition d'exercer mes mandats politiques avec dignité et de les abandonner un jour avec la même dignité. Je dirige depuis plus de 18 ans la CDU et je suis depuis 13 ans chancelière de la République fédérale. J'ai dit dans le passé que je n'étais pas née chancelière et je ne l'ai jamais oublié. Je ne serai pas candidate à la présidence de la CDU lors du prochain congrès de notre parti début décembre. Ce quatrième mandat en tant que chancelière est le dernier. Je ne brigue pas d'autres fonctions ensuite. Je suis prête à continuer ma mission à la tête du pays jusqu'au terme de la législature actuelle en 2021.
Plutôt rare comme propos, Yann, non ?
Oui, plutôt rare, mais Angela Merkel, on peut être en désaccord avec ses idées. Elle a une certaine idée de la politique quand même. On se souviendra tous de ce qu'elle a fait pour les migrants en 2015. Alors, je sais qu'elle est très critiquée par
un certain nombre de gens. Ça lui a coûté cher politiquement.
Ça lui a coûté cher. C'est en train de lui coûter cher politiquement. C'est vrai que beaucoup de gens, notamment à gauche en France, critiquent ses conceptions économiques et ce qu'elle impose comme conception économique, du coup, à la zone euro. C'est vrai. Mais elle n'est pas la seule dans ce registre-là. D'autres pays européens, d'Europe du Nord notamment, sont sur la même ligne. Et donc Angela Merkel, parfois, a le dos un peu large en France là-dessus. C'est vrai qu'elle est extrêmement raide sur un certain nombre de sujets, sur les politiques budgétaires, etc. et sur les questions fiscales. Mais quand même, elle a permis à beaucoup de sujets, d'avancer doucement, mais d'avancer quand même.
Alors Pittsburgh, cet attentat antisémite, ce suprémaciste blanc, ouvertement antisémite, donc, est passé à l'acte.
Oui, ben on a aux États-Unis, comme ailleurs, mais peut-être encore de façon plus explicite, plus ouverte aux États-Unis, des gens qui défendent des opinions racistes, xénophobes, antisémites, anti-homosexuels, etc. Au nom de la liberté d'expression, aux États-Unis, on peut dire publiquement des horreurs que dans d'autres pays, ouais, comme la France, on ne pourrait pas dire sans risquer d'être poursuivi. Mais
comme si Donald Trump, qui fait la une d'Alternative économique, d'ailleurs, aujourd'hui, avait désinhibé, en quelque sorte, un certain nombre d'Américains.
Ah, c'est sûr que ça participe, cela dit, des suprémacistes blancs, il y en avait avant lui. Oui. Il a tendance quand même assez régulièrement à trouver des excuses à cela plus facilement qu'à ses adversaires politiques, ça c'est sûr.
Oui. Alors il a décidé, Donald Trump, bon, il faut rappeler que la semaine prochaine il y a des élections importantes, demi-mandat, a décidé d'envoyer 15 000 soldats à la frontière mexicaine, autant qu'en Afghanistan quasiment.
Oui, alors je pense qu'il est, Donald Trump, involontairement, mais quand même un peu aidé électoralement par cette caravane de migrants,
oui,
qui arrive
de Honduras, oui,
voilà, qui remonte vers les États-Unis. Ces pauvres gens fuient la situation dans leur pays et on ne pourra pas les en blâmer. Cela dit, rendre indirectement un service à Donald Trump, puisque toutes les caméras des réseaux d'information américains sont braquées sur cette zone qui peut avoir, qui évoque pour ceux qui ont le goût des fantasmes, alors qu'il s'agit de quelques milliers de personnes, le menace d'une invasion, comme si quelques milliers de personnes pouvaient envahir un pays qui compte plusieurs centaines de millions d'habitants. Mais bon, en tout cas, ça joue et ça permet à Donald Trump de faire miroiter, comme il le fait dans beaucoup de domaines, des réformes, et par exemple la suppression du droit du sol aux États-Unis, ce qui serait...
Une révolution
est complètement contraire à l'histoire des États-Unis. Il faut se rappeler que Donald Trump est lui-même le descendant d'immigrés. Alors est-ce qu'il aurait voulu ne pas avoir cette nationalité américaine ?
Mais il n'est pas le seul à décider.
Heureusement, il n'est pas le seul à décider, contrairement à d'autres pays occidentaux.
Sept jours en France.
Et nous avons retenu deux titres cette semaine. Yann Mins, Santé publique France, l'organisme public de protection de la population, a publié mardi un nouveau décompte des malformations survenues dans l'Ain. Au total, selon l'agence, 18 cas suspects, dit-elle, de réduction des membres supérieurs ont été dénombrés dans ce département. Patrick Chompré.
Ce n'est donc plus 7, mais 18 cas de bébés qui sont nés sans bras ou sans mains entre les années 2000 et 2014 dans l'Ain, département de la région Rhône-Alpes. Des investigations complémentaires sont en cours, ajoute l'agence dans son nouveau rapport. Dans un premier temps, l'organisme avait défendu l'idée que seul le hasard permettait d'expliquer ce nombre de cas inhabituels. Face à la polémique médiatique et scientifique qui montait, la ministre de la Santé Agnès Buzyn avait demandé le 22 octobre dernier une nouvelle enquête dont les premiers résultats commencent donc à tomber. Les recherches s'appuient sur les données du registre des malformations en Rhône-Alpes, le REMERA. Faute de financement, cet organisme devait cesser d'exister au 1er janvier prochain, une décision sur laquelle le gouvernement est également revenu les jours derniers dans ce contexte. Les associations de familles de victimes demandent maintenant d'en finir avec le défaut d'information et de transparence sur les données de santé concernant cette affaire. Et une fois tous les cas recensés, l'enquête la plus dure commencera. Elle devra déterminer les causes précises de ces malformations.
À suivre donc. Cette semaine, le Conseil des ministres a été avancé à mardi, alors qu'il se tient habituellement le mercredi. C'est un rite, une véritable tradition dans la République. Mais pour convenance personnelle, ce Conseil a été changé, semble-t-il, à la demande d'Emmanuel Macron, qui aurait eu besoin de reprendre des forces. Alors, coup de fatigue ou coup de communication, Anne Sautemont.
Monsieur le Premier ministre, alors que la fatigue semble gagner le sommet de l'État...
Coup de fatigue, burn-out, opération de communication. Depuis quelques jours, les spéculations vont bon train sur l'état de fatigue du président. Oui, Emmanuel Macron accuse le coup. Après 600 jours au pouvoir, croit savoir le député LREM Jean-Baptiste Moreau.
Oui, il est fatigué. Il a fait beaucoup de déplacements à différents pays. Il a eu pas mal de boulot comme nous tous et il a besoin de se reposer. C'est bien normal, lui.
À l'Élysée, on dément. Pas de coup de fatigue. Le président gère l'effort, explique son entourage, qui reprend. Nous avons considéré que s'arrêter quelques jours avant une longue semaine de commémoration n'était pas complètement absurde. Une explication qui ne satisfait pas l'opposition. Daniel Fasquet, les députés, les Républicains.
Écoutez, le président de la République a le droit de se reposer. Bon, enfin, très franchement, décaler un conseil des ministres pour convention personnelle, je ne trouve pas ça très correct.
C'est dimanche matin que commenceront les célébrations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. 6 jours de déplacement à travers 11 départements pour le président qui, d'ici là, prend du temps en famille dans un cadre privé.
Alors tout est polémique aujourd'hui, Yann Mars.
Oui, je
trouve. À cause ou grâce les réseaux sociaux, Twitter, ouais, etc.
Il y a deux choses dans cette histoire, je trouve. Il y a d'une part, il est normal que le président de la République se repose. J'imagine l'agenda de cet homme, ça doit être juste une horreur. Je comprends qu'en plus, il force un peu le trait parce qu'il envoie des SMS à ses ministres à 2h du matin où il recommence à 5h du matin.
Alors chacun sait qu'il faut dormir.
Et chacun sait qu'il faut dormir. Je réclame le droit à la déconnexion pour les ministres et tous les collaborateurs d'Emmanuel Macron. Après, il y a un autre phénomène qui, il me semble, enfin, une dimension, c'est que il paye un peu la monnaie de sa pièce. Quand on joue à Jupiter, quand on est omniprésent, etc., et qu'on s'absente tout d'un coup 3 jours, ça devient une affaire d'État. Si on le voyait un peu moins, on s'apercevrait moins qu'il n'est pas là, si je puis dire. Voilà. Et donc, c'est ça, simplement. Je pense que très bien qu'il se repose, qu'il revienne en forme. Ça me paraît logique, humain, et c'est justement prétendre qu'on peut faire autrement qui n'est pas humain et pas logique.
Mais vous ne trouvez pas que l'actualité française, pour ne parler que d'elle, est rythmée par des polémiques quasiment chaque jour?
Bon, je pense qu'il y a probablement, les spécialistes des médias diront ça dans quelques années, probablement un effet des réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce qui avant était simplement répercuté par les médias, par nous les journalistes, aujourd'hui est répercuté par tout un chacun avec son téléphone portable, et tout est démultiplié. Outre les fake news, il y a effectivement l'inflation, le gonflement, la démesure de quelque chose qui est banal, le président de la République prend 5 jours de vacances, mon Dieu, ça devrait pas faire polémique, mais je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont envie de polémique tout le temps, et de polémique à partir de n'importe quoi. Je trouve qu'il y a des sujets plus intéressants, et par exemple, les facéties de Monsieur Corbière et de Madame Garrido, députés insoumis, et la façon dont ils savent utiliser habilement les niches fiscales.
Alors, selon un article du Canard Enchaîné,
effectivement, me semblerait largement mériter un débat, des informations, etc. Voilà.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Et je salue quelques auditeurs qui nous ont écrit cette semaine. Un bonjour à Roland à Yaoundé, Dieudonné à Ouagadougou, Elias à Cotonou, Khaled à Conakry. Et je salue Odilon qui nous écoute à Maromandia à Madagascar.
Une semaine d'actualité.
Yann Mars, il nous faut nous rendre en Tunisie. Maintenant, une jeune femme a déclenché une bombe lundi au milieu de journée en visant une patrouille de police sur la principale avenue de Tunis. 20 personnes, dont 15 policiers et 2 adolescents, ont été blessés dans cette attaque. La première a secoué la capitale tunisienne depuis 2015, mais aucune n'a été touchée grièvement. Correspondance de Michel Picard.
L'attentat suicide perpétré par une femme d'une trentaine d'années a créé une onde de choc au cœur de la capitale tunisienne. Wassila sortait du bureau quand c'est arrivé.
C'était quelque chose de choquant. Elle visait les agents de police. Elle voulait monter dans leur voiture, mais lorsqu'elle a dit Allahu Akbar, ils l'ont empêché.
Hakim Mezrahi, lui, n'en revient pas.
C'est douloureux pour la Tunisie, pour le tourisme, pour tout, pour l'économie. C'est un peu difficile.
Walid, qui travaille dans une librairie tout près du lieu de l'explosion, se souviendra longtemps de ce jour.
J'ai entendu juste une explosion. Après, j'ai vu une femme allongée juste au sol avec le sang partout. Et les gens tous courent vers moi. Le terrorisme n'est pas maintenant dans les montagnes, il est loin de nous, mais il est ici et entre nous.
Face à la scène du drame, Kamel préfère prendre du recul. En cours pendant l'attentat, cet étudiant n'a pas vécu le choc de l'explosion.
On voit que la Tunisie exporte le nombre maximal des terroristes partout dans le monde. Si on a peur, on reste chez nous, mais on doit vivre.
Le dernier attentat comparable dans le pays date de novembre 2015, quand un kamikaze avait tué 12 agents de la garde présidentielle.
Restons dans la région, en Algérie, Yann, tous derrière Abdelaziz Bouteflika, le président affaibli, c'est le moins que l'on puisse dire, se représentera donc à la prochaine élection présidentielle. Tel est le souhait du FLN, le parti au pouvoir depuis l'indépendance. Alger lundi, Leïla Berato.
affichait son soutien inconditionnel au président de la République. Depuis des mois, le secrétaire général du FLN, Jamel Ouldabès, répète qu'il considère que le bilan d'Abdelaziz Bouteflika est très positif, que malgré ses problèmes de santé, c'est bien lui qui gouverne le pays et qu'il souhaite que le président soit encore candidat. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'annonce faite ce dimanche selon laquelle Abdelaziz Bouteflika sera le candidat du FLN aux prochaines élections présidentielles. Mais alors que la crise au Parlement dure depuis plusieurs semaines et que le président de l'Assemblée nationale s'est vu déchoir de ses responsabilités en dehors de tout cadre légal et malgré son appartenance à la majorité, l'annonce du chef du FLN est aussi un indice de plus sur le climat de tension en cette époque de succession. L'affaire de la cocaïne du port d'Oran, la mise en détention de plusieurs généraux et les destitutions de hauts cadres sécuritaires considérés comme des proches du président Bouteflika semblent montrer que les règles ont changé et qu'il faut désormais montrer une loyauté à toute épreuve si l'on veut faire partie du scénario de la succession.
Alors nous sommes au Maghreb, donc Yann, la Tunisie d'abord. Vous avez surpris cet attentat ?
Oui, ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde parce que ça, donc, comme le rappelait votre correspondant, ça fait 3 ans maintenant, enfin 2 ans et demi, oui, 3 ans pratiquement qu'il n'y avait pas eu d'attentat. Je pense que le fait que ce soit une femme, ça frappe encore un peu plus les esprits parce qu'on n'a pas l'habitude qu'il y ait tellement de femmes kamikazes. En réalité, il y en a eu un certain nombre, notamment, je pense, en Tchétchénie. C'était souvent des femmes qui estimaient avoir une raison personnelle pour venger un frère, un mari, etc. Là, à ma connaissance, on n'a pas d'explication sur les motivations de cette femme.
En tout cas, elle était diplômée et au chômage, semble-t-il.
Mais bon, comme le rappelaient des personnes interviewées dans le reportage, c'est vrai que la Tunisie a été un grand exportateur de djihadistes. Il y a des réseaux importants, anciens. Il y a l'État islamique qui traîne par là, qui est d'ailleurs présent en Libye encore, bien qu'il ait subi des défaites. Il y a une filiale d'Al-Qaïda, donc il y a un terreau. Et les femmes qui étaient souvent cantonnées dans des rôles plutôt de fonctions de support logistique ou administratif ou éducatif ou santé, ben là, effectivement, elles se mettent aussi à la lutte armée. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'individuel ? Est-ce que c'est une initiative personnelle? Ou est-ce qu'elle est soutenue par un groupe? Ça, à ma connaissance, on ne le sait pas. Je pense que les autorités tunisiennes ont accusé l'État islamique, mais je ne sais pas si on a déjà des preuves là-dessus.
Dans une Tunisie qui est, pour le moment, pacifiée sur le plan politique.
Oui, pacifiée. La politique tunisienne est un peu compliquée parce que le système de partis est un peu fluctuant. Mais globalement, il n'y avait pas eu d'attentat depuis un certain temps, en dépit du fait, je le rappelle, de la présence de la Libye juste à côté, où là, en revanche, il y a des menaces extrêmement fortes.
Alors, passons les frontières et partons pour l'Algérie. Bouteflika président ? Encore ?
Ça va dépendre de ce que décide la Camarilla qui est autour de lui, qui est menée par son frère, je crois. Tous ces avants ont évidemment intérêt à ce que Abdelaziz Bouteflika soit en président pour pouvoir tirer les ficelles de la marionnette à roulette, si je puis dire, qui est devenu le président algérien. La question, c'est que le pouvoir algérien est extrêmement opaque et que les luttes qui se déroulent, et Laberato, il faisait allusion notamment à ces arrestations de tout un tas de généraux supposés ou vraiment impliqués dans du trafic de cocaïne dont on a saisi tout d'un coup, je dis tout d'un coup, parce que ça m'étonne un peu que tout d'un coup il y ait des cargaisons qui apparaissent comme ça à Oran. Ça permet de faire du ménage dans une partie des forces de sécurité, peut-être dans le cadre de la préparation de l'élection. On commence à ranger les pions pour la bataille.
Mais à chaque fois qu'on évoque cette situation politique à Alger, qui semble bloquée, en tout cas vue de Paris, je pense à la différence qu'il y a entre l'âge de Bouteflika et l'âge moyen de la population algérienne.
Oui, bien sûr, mais je dirais que. Mais ça, c'est vrai de beaucoup de pays du continent africain. Je veux dire, si on regarde, je ne sais plus quel âge a Idriss Déby, on sait que Paul Biya a 85 ans, etc. On pourra en trouver un certain nombre comme ça. C'est frappant. En même temps, on n'arrive jamais à la tête de l'État extrêmement jeune. En général, il faut quand même attendre une quarantaine d'années au minimum. Bon, je crois que Emmanuel Macron, c'était plutôt 38 ou 37, je crois, donc c'est jeune. Plutôt une exception. Ouais. Mais c'est quand même très rare. Et quels que soient les pays, donc. Il y aura forcément un différentiel entre les deux. Non, ce qui est accablant dans le cas de Bouteflika, c'est que on a l'impression que cet homme est à peu près absent. Alors on parlait des 5 jours de congé d'Emmanuel Macron. Là, c'est plus un congé, c'est un coma. Donc je sais pas ce que doivent penser les Algériens.
Alors partons pour le Burkina Faso maintenant. Yann, Burkina Faso qui s'est souvenu mercredi rendant hommage aux victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a chassé du pouvoir l'ex-président Compaoré. Reportage cette fois de Yaya Boudani.
Paris. Après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied du mémorial aux héros nationaux, où les noms des personnes tuées au cours de l'insurrection d'octobre 2014 sont gravés, le président du Faso Rokma Christian Kabore a invité ses compatriotes à une unité d'action pour la célébration des faits marquants de l'histoire du Burkina Faso.
Ils se sont battus parce que c'était la démocratie qui était en jeu. Il est tout à fait normal qu'en ce jour, nous nous inclinions respectueusement vis-à-vis de ces personnalités-là. Et que nous sachions que toutes les dates historiques de notre pays ne doivent pas faire l'objet de politiques politiciennes. Quel que soit notre point de vue politique, quel que soit nos points de vue religieux, c'est un jour de reconnaissance vis-à-vis de ces héros. C'est un jour également d'introspection.
4 ans après, les parents des victimes et les blessés de l'insurrection attendent toujours le traitement judiciaire du dossier. Nebon Bamouni, porte-parole des associations des familles de victimes et blessés.
Le combat continue. Ce que nous espérons, c'est d'abord la justice. Pour ce qui est du coup de l'insurrection populaire, on peut dire que les choses sont en l'état, même s'il y a des actes qui ont été posés. Ça veut dire qu'il y a encore une insatisfaction à ce niveau. Il y a aussi des aspects sociaux aussi qu'il faut prendre en compte.
En 2015, une loi sur la prise en charge des orphelins avait été votée par le Parlement de la Transition, mais 3 ans plus tard, les décrets d'application ne sont pas encore signés.
Terminons cette semaine notre voyage en RDC, République démocratique du Congo, pour faire un point sur la préparation de l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Yann, mercredi, notre correspondante à Kinshasa, Florence Maurice, qui était à votre place il y a quelques semaines, s'est intéressée particulièrement aux observateurs qui garantiront en principe ce scrutin.
Côté observateurs internationaux, il y a ceux qui ont été officiellement invités. L'Union africaine, qui enverra donc une mission, reste à en définir la taille et la durée. L'OIF a également été sollicité. Puis il y a ceux qui n'ont pas été invités. L'Union européenne notamment, elle avait pourtant manifesté son intérêt dès le mois de juin, sans suite. À l'heure actuelle, les délais ne lui permettent plus d'organiser une mission selon ses critères. Elle n'observera pas le scrutin. On ne va pas inviter des gens qui nous ont placés sous sanction, aurait déclaré le président Kabila au Conseil de sécurité selon plusieurs sources diplomatiques. Toujours à l'international, l'ONG américaine Centre Carter prévoit une 60aine d'observateurs africains, américains et européens, mais reste depuis des semaines dans l'attente d'une invitation officielle, pourtant promise par la commission électorale. Elle pourrait être obligée de réduire la voilure faute de temps. C'est donc au niveau national que les observateurs devraient être les plus nombreux. 40 000 environ pour la commission justice et paix de l'Église catholique, plus de 20 000 pour la CIMOCEL. Mais ces derniers restent soumis à une procédure d'accréditation fixée par la CENI entre le 8 novembre et le 10 décembre, avec le risque que les observateurs de longue durée ne puissent donc pas suivre l'ensemble de la campagne qui doit débuter le 22 novembre, un moyen de limiter l'observation, redoute un expert.
Alors, nous allons parler de la RDC dans un instant, Yann Mince, mais arrêtons-nous un instant au Burkina Faso, qui a donc rendu hommage mercredi aux victimes de l'insurrection d'octobre 2014. Burkina Faso qui est en proie, véritablement, à des combats quasiment quotidiens.
Oui, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens au Burkina qui disent que, en gros, Blaise Compaoré avait passé un accord avec un certain nombre de groupes qui prémunissaient son pays contre l'agression. En gros, il tolérait que les groupes utilisent le Burkina pour faire leurs activités ailleurs, mais pas au Burkina. Je ne sais pas si c'est exact ou pas, mais il faut bien constater effectivement que le Burkina aujourd'hui, comme le Mali, comme le Niger, comme d'autres pays de la région, fait partie des victimes de ces mouvements djihadistes qui se jouent très aisément, je ne sais pas, mais en tout cas très concrètement et très quotidiennement des frontières, qui sont capables d'étendre leur action et qui savent à peu près toujours trouver dans tous les pays qu'ils souhaitent ou ils souhaitent s'implanter des groupes suffisamment marginalisés pour que effectivement ils aient des insatisfactions que ces groupes djihadistes puissent exploiter. On l'a vu avec les Peuls, une partie en tout cas de la communauté Peul au Mali. On l'avait vu avant avec une partie des Touaregs au Mali également il y a quelques années en arrière. Donc il y a une espèce, comment dire, une analyse sociologique qui est faite par ces groupes djihadistes. Ils regardent un peu quels sont leurs alliés potentiels avec pas mal d'opportunisme et ça fonctionne.
Parce que on le rappelle à chaque fois avec vous en votre compagnie, Yann, le combat contre le terrorisme continue dans le Sahel. Il faut le préciser.
Bien sûr, il continue.
J'ai l'impression que, vu de France, pour les Français, que tout est réglé, qu'il ne se passe rien. L'armée française a été engagée il n'y a pas très longtemps encore dans des opérations.
Oui, et l'armée française perd régulièrement des hommes, elle aussi, dans des opérations. Oui. Et je me souviens que c'était il y a quelques mois, des soldats américains sont morts au Niger. Oui. Et tout d'un coup, l'opinion américaine a découvert qu'il y avait des forces américaines dans le Sahel et pas seulement des forces locales. On parle beaucoup du G5 Sahel et des plans qu'on tire sur la comète pour la capacité de cette force. Voilà, ouais. Mais c'est très compliqué. La lutte anti-djihadiste, ça suppose à la fois des moyens militaires, un savoir-faire, des moyens logistiques et puis du renseignement. Et c'est pas forcément la chose la plus facile à obtenir.
Alors, la République démocratique du Congo, cet immense et fantastique pays, tout est en préparation. L'élection se prépare. La CENI a même lancé sa radio, hein, la commission électorale indépendante. L'armée aide au déploiement du matériel électoral et Florence Maurice nous disait que les observateurs sont prêts quasiment.
Oui, mais j'ai lisé un sondage cette semaine fait par un centre d'études sur le Congo, basé notamment aux États-Unis, qui montre que la grande majorité des Congolais, eux, n'ont pas confiance dans la CENI, pour l'instant, et toujours pas, je dirais, dans la CENI, et ni d'ailleurs dans les tribunaux, pour régler les contentieux électoraux éventuels. Et je disais, ce même sondage indique, alors ça vaut ce que ça vaut les sondages, mais c'était un sondage sur un échantillon assez important, que plus de la moitié des Congolais seront prêts à descendre dans la rue après l'élection s'ils jugent que les résultats ont été pipés et que tout ça a été l'objet d'une grande fraude. Plus de la moitié de la population, c'est beaucoup de monde au Congo, potentiellement, et ça peut faire des troubles extrêmement importants. C'est pour ça que la présence d'observateurs est cruciale, que leur capacité à aller partout, le Congo est un pays gigantesque, à aller partout et à rendre compte partout des fraudes potentielles est très importante, bien entendu.
En tout cas, on sent qu'il y a une attente de la part de la population.
Il y a une attente, et le sondage que je citais disait que c'est Tshisekedi qui est pour l'instant tout à fait en tête, avec 36% devant Kaméré, et encore devant, après Kaméré, vient le clone que Kabila s'est choisi pour le représenter. Donc effectivement, il y a un enjeu très important, et si les Congolais de la rue ont l'impression qu'il y a un écart énorme entre les sondages préélectoraux et la réalité du scrutin, ils vont effectivement se méfier de l'organisation par la CENI et on peut craindre des troubles.
Alors, terminons avec le formidable travail que fait Alternative Économique. Et là, j'ai sous les yeux le numéro 2 d'un MOOC. On dit ça comme ça maintenant.
C'est un MOOC. Ça s'appelle un MOOC. Alors, un MOOC avec revue, un K, pas un MOOC avec un C. Un MOOC avec un C sont des cours.
À la fois une revue et un livre.
Voilà, c'est un mélange entre, enfin, c'est un mix entre magazine et livre, d'où le magazine book et book en anglais.
Pour balayer les idées reçues, c'est ça.
Là, en l'occurrence, il s'agit de balayer les idées reçues sur les Français, plus particulièrement. L'année dernière, la première édition qu'on avait faite, c'était sur les idées reçues en général, tant à sujet français ou étranger. Là, on s'est plutôt focalisé sur les Français et à chaque fois, on étaye la destruction des idées reçues ou leur confirmation parfois relative par des chiffres qui sont illustrés, mis en scène par des illustrateurs qui sont des
sont
artistes
de très très bons illustrateurs
qui sont des artistes, sont pas des spécialistes du chiffre ou de l'infographie, dont on force un peu leur tempérament, on les oblige à mettre en scène des chiffres pour que ce soit à la fois simple et agréable à regarder et attractif. Voilà, c'est l'objectif.
C'est le cas effectivement, et le titre de ce numéro c'est Les Français ne sont pas ceux que vous croyez.
Et en partie aussi la France, parce qu'il y a des choses qui sont pas seulement sur les Français mais aussi sur la place de la France dans le monde, parfois, qui n'est pas ce qu'on croit.
Vous avez été surpris aussi par les résultats
Alors, je suis toujours surpris. Dès qu'on se plonge dans les chiffres, on est pris parfois à contre-pied de ses propres idées reçues, ses propres clichés. Hein.
Merci Yann, spécialiste des questions internationales au magazine Alternative Économique. Donc, on vous retrouvera à la fin de l'année. On va faire ensemble une synthèse de l'actualité de l'année à partir de tout ce que nous aurons dit dans cette émission au fil des semaines. Merci et à bientôt donc Yann. Une semaine d'actualité réalisée aujourd'hui par Pauline Leduc. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous serons en compagnie d'un jeune normalien, François-Xavier Bellamy, auteur d'un livre, d'un essai précisément, qui s'intitule « Demeure ». Il prône un peu de stabilité dans un monde où il nous est imposé de bouger, d'être en mouvement, de nous mettre à jour. Il veut en quelque sorte que nous habitions nos vies. Idées demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.